Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Il est 11h03, on est de retour sur RMC pour notre plus grand plaisir. Évidemment, si vous avez raté les deux premières heures d'émission, pas de panique, allez nous écouter en podcast. Nous avons parlé du 15 de France qui a magnifiquement gagné cette rencontre face au Pays de Galles hier, mais les Bleus terminent deuxième. Est-ce une réussite? C'est notre question, ce tournoi des Six Nations. Les GG n'étaient pas d'accord. On peut d'ailleurs en reparler à 11h40. N'hésitez pas à composer le 32-16. On a aussi évoqué la crise chez Ferrari, crise ou pas crise, et puis à 10h, on parlait de cette république des joueurs, notamment cette histoire au biathlon, cette histoire avec les joueuses de l'équipe de France autour de Corinne Diacre. Est-ce du délire? C'était notre question. Là aussi, les GG ne sont pas d'accord et je sais que vous êtes nombreux à vouloir réagir à ce débat. Dans quelques instants, le bras de fer des GG avant le premier rassemblement de l'équipe de France demain pour la Coupe du Monde. Enfin, depuis la Coupe du Monde, ce premier rassemblement. Mbappé capitaine, êtes-vous pour ou contre les GG? Et puis 11h30, c'était mieux avant, le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux. Aujourd'hui, Christophe, tu nous propose quoi? Oh, ça, je sais pas pourquoi ça sent le rugby.
Ah bah oui, je vais vous parler du Grand Chelem 77, la bande à fourrou, la horde sauvage, c'est comme ça que les avaient qualifiés les Anglais, qui ont marché sur le rugby européen en 77. Jacques Fourrou, personnage hors du commun, vous allez comprendre pourquoi.
Les artistes entrent dans l'arène. Demain, les Bleus du foot vont se retrouver pour la première fois depuis la finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine. Des Bleus, sans certains cadres historiques, vous le savez, partis à la retraite internationale. Hugo Lloris, l'ancien capitaine, Raphaël Varane, le vice-capitaine. Du coup, la question du brassard surgit. Qui va être le nouveau capitaine de l'équipe de France? On va écouter Didier Deschamps. C'était jeudi en conférence de presse. Personnellement, j'espère juste qu'il va pas commencer par « il y en a certains que je retiens possible », tout ça. Sinon, ça va m'énerver.
Écoutez, il y en a certains que je retiens possible. Évidemment, Kylian en fait partie, mais voilà, ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision.
Ok, ça m'énerve. Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France. Dans le coin gauche, la team pour Renaud Longuèvre, Pascal Duprat. Dans le coin droit, la team contre Christophe Cessieux, Marie Martineau. C'est le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort? L'hippopotame ou les
voilà. RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et vous êtes nombreux à voter sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Ah, c'est pas serré pour l'instant. Ah, pour le moment, je dois vous le dire, c'est vraiment pas serré. C'est du 62-38.
Waouh.
62 pour, 38 contre. Vous le savez, quand vous êtes derrière, vous débutez et vous essayez de renverser la tendance. Christophe Cessieux, pourquoi contre?
Alors, je suis contre, non pas parce que il ne ferait pas un bon capitaine, évidemment. Kylian, c'est le personnage central du football français. Mais je pense qu'il assume assez de rôles comme ça. Il est le leader de l'équipe, il est la star des Bleus, il est le buteur de l'équipe de France. Et voudriez en plus qu'il assume le rôle du capitaine sur le terrain et surtout en dehors du terrain, parce que c'est là que je vais venir. Évidemment, sur le terrain, c'est le leader et je pense qu'il a beaucoup d'influence sur ses camarades de l'équipe de France. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout en dehors. Alors, vous allez me dire, on compare par exemple à Antoine Dupont, qui lui aussi est la star de l'équipe de France de rugby, qui est le génie du rugby français et qui est aussi capitaine de l'équipe de France. Oui, mais Antoine Dupont et Kylian Mbappé n'ont pas du tout la même personnalité. Dupont, tu le verras jamais en conférence de presse sortir une petite phrase qui fera les choux gras des grandes gueules du sport le lendemain matin. Il est dans le cadre et dans les éléments de langage que lui demande de dire Fabien Galthié, le staff de l'équipe de France de rugby. Ce n'est pas du tout le cas de Kylian. Kylian, c'est à la fois un mec brillant, intelligent, qui sort des choses très sensées, mais qui est un peu un chien fou. Et lorsqu'il pense à un truc, il le dit immédiatement. Alors vous imaginez si un jour en équipe de France, le sélectionneur n'a pas fait comme Kylian le souhaitait exactement, si un coéquipier ne lui a pas fait assez de passes dans le match, comme c'est arrivé par exemple avec le PSG. en conférence de presse derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va être des incendies à répétition. Alors pour nous, ce sera un bonheur, hein, pour la presse, pour les grandes gueules du sport, ce sera super. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'équipe de France.
Il ne faut pas le mettre pour ses obligations médiatiques. C'est ton angle.
Je pense. Alors j'ai une solution. Le nommer capitaine de l'équipe de France. Et on voyait un porte-parole en conférence de presse, okay. Mais surtout pas Kylian, okay. Qui va allumer des incendies à répétition.
Il est pour Kylian Mbappé avec le brassard, il répond, Pascal Duprat.
Oui, je voudrais en aparté rejoindre Renaud et dire à Christophe et à Marie qu'il est 11h10 et qu'ils sont à l'ouest depuis le début de l'émission. Vraiment, que vous me mettiez dedans.
Ah, c'est sûr que
Christophe, peux-tu dire que Kylian Mbappé, c'est pas le garçon légitime pour être le capitaine de l'équipe de France.
Je n'ai pas dit ça, tu n'as pas bien écouté, Pascal.
Mais si j'ai tout écouté, ça va me servir pour mon argumentation. En plus, ce que tu as dit, c'est toujours très intelligent ce que tu dis. Mais là, pour le coup, c'est pondéré, c'est un peu tiède. Bon, voilà. Kylian Mbappé, tu peux pas faire autrement que le mettre capitaine de l'équipe de France parce que c'est déjà le meilleur joueur du monde. D'accord? Donc, et en plus de ça, il est charismatique.
Un bon capitaine.
En plus de ça, il est charismatique. En plus de ça, il est le leader de la génération, bien naturellement, cette génération qui se renouvelle en équipe de France. Il est là pour longtemps. Il se veut exemplaire. Il doit être exemplaire. Et c'est là-dessus que j'insiste. Parce que moi, ce que je voudrais pas, c'est que Kylian Mbappé, il dérive complètement. Je voudrais qu'il fasse du bien à un autre football. Il en fait sur le terrain, mais qu'il en fasse aussi en dehors pour que notre sport, le football professionnel, redore son blason. Voilà pourquoi j'espère que Didier Deschamps aura cette idée géniale de mettre Kylian Mbappé capitaine. Pour ne pas qu'il dérive, pour ne pas qu'il chope le cigare, pour ne pas qu'il raconte des conneries,
pour qu'il donne une bonne image
de notre sport. C'est un garçon qui est pondéré, c'est un garçon qui est intelligent, qui est capable de s'exprimer correctement. Je souhaite qu'il le soit.
Alors, est-ce que Antoine Griezmann serait moins pondéré, serait moins une belle image du sport français, du football français?
Je ne lui veux pas de mal, mais il me semble que je lui veux pas de mal surtout. Hein. Mais Antoine Griezmann, à un moment donné, ça va s'arrêter, d'accord? Donc là, moi, je parle pour le long terme.
Et ben justement, alors c'est exactement le contre-argument qui est le mien, c'est que c'est un peu trop tôt encore pour Mbappé.
Et tu te réveilles enfin.
Ben non, mais je me dis, il peut jouer encore combien de temps d'après toi en équipe de France? 10 ans?
Oui.
Ça voudrait dire qu'on partirait sur, parce qu'après il sera irremplaçable en tant que capitaine, ça sera lui pour jusqu'à la fin de sa carrière, donc on mangerait du 10 ans d'Mbappé. Moi je trouve ça un peu tôt, et justement Griezmann ferait bien le job entre temps, tu vois, même si on sait que l'avenir donnera ce capitanat à Mbappé, tu vois, un peu comme on attend Zizou en équipe de France, mais en attendant et ben il y en a un petit peu d'autres qui vont prendre la place.
Ok, donc oui, trop tôt, Marie. Trop de médias. Renaud Longuèvre, ouais. Il est pour lui, vas-y
Marie, on est dans une phase de reconstruction après la Coupe du Monde, et on le voit bien, hein, il y a des arrivées, Khéphren Thuram, et sincèrement, le choix d'Mbappé, il s'impose parce que c'est l'icône de ces jeunes joueurs. Cette revue d'effectifs qu'effectue Didier Deschamps, et c'est le moment pour lui de rebâtir, de reconstruire vers les grandes échéances qui se préparent. Et je pense que sur tous ces joueurs-là, y compris le gardien de but, Mbappé, il est tout en haut. Donc il est légitime, il a de la légitimité.
Ouais, moi,
il est capable de parler à un jeune, de le prendre pendant un match, de le recadrer, de lui dire attention. Et puis attention, c'est vrai que le capitaine, c'est moi j'ai pas été dans le foot au niveau de Pascal, j'ai joué en district, mais le capitaine c'est celui qui est sur le terrain, le coach sur le banc, il des fois quand ça se joue de l'autre côté, bah la voix elle porte pas jusqu'à là-bas. Donc le capitaine, c'est quelqu'un qui est capable d'aller sur le terrain, d'être un manager bis, ou plutôt de la courroie de transmission du coach. Et ces qualités-là, pour avoir de l'écoute, parce que dans des conditions de stress et d'énervement, il faut que le gars qui te parle et qui te recadre, il faut que ce soit quelqu'un qui est légitime. Sinon, tu vas écouter que d'une oreille, vas-y, cause-moi.
Non, mais quelqu'un de légitime, oui, mais
Mbappé, il y a des leaders d'équipe qui ne sont pas forcément les capitaines et qui prennent ce genre de responsabilité.
Non, mais qui sont indiscutables. ça, je suis d'accord avec toi, Renaud. Mais déjà, oui, est-ce qu'il a besoin de ça, Kylian Mbappé, dans son jeu? Est-ce que il n'est pas leader autrement, mais un peu comme
c'est
les Zidane? Zidane, il a attendu avant d'avoir le brassard. Il n'avait pas besoin de ça sur le terrain. Donc, un, est-ce qu'il a besoin de ça? Là, je pose la question à Renaud et Pascal. Et deux, répondez à Christophe. Est-ce que les interventions médiatiques, ça vous fait pas un petit peu peur? Parce que tous les journalistes vont aussi aller l'interroger sur le PSG, le Real, peu importe où il sera à ce moment-là.
C'est que la langue de bois va disparaître.
Ah oui,
ça fera du bien. Ça fera du bien. Encore une fois, il est légitime. Vous pouvez dire ce que vous voulez.
Bah, d'ailleurs, on a le droit.
Christophe, Marie, si j'ai un conseil à vous donner, Christophe, Marie, si j'ai un conseil à vous donner, il n'est pas trop tard pour basculer de camp. C'est pas humain d'être près de nous. Venez avec
du prosélytisme
pour défendre cette cause.
Tu ne feras pas changer de voix.
Ce serait un signe d'intelligence. Ce serait un grand signe d'intelligence.
C'est vrai. Marie, moi, je vais rester bête et
non, mais j'aurais bien aimé vous voir. J'aurais bien aimé voir Pascal nommer un mec qui met des incendies à chaque fois qu'il y a une conférence de presse. T'es pas un peu stressé quand t'es entraîneur ou sélectionneur d'une équipe quand tu sais que ton capitaine est un chien fou et qu'il va aller balancer des trucs en conférence de presse? T'es pas un peu tendu dans ces moments-là?
En fait, je suis certain que, justement, pour ne pas que ça arrive, c'est comme ça que Deschamps doit procéder. Parce que de cette manière, là, il aura la responsabilité d'être le capitaine et de s'exprimer au nom du groupe.
Rappelle-toi de ce qu'avait fait Deschamps à un moment donné. Il avait interdit, je crois, à Kylian Mbappé d'aller en conférence de presse parce qu'il voulait balancer des saucisses sur Olivier Giroud. C'était quand l'année dernière.
C'était avant l'Euro.
Bien mieux que de l'interdire. Donnez-lui le brassard pour qu'il ait cette responsabilité.
Ça fera bien
un joueur exceptionnel qu'il est. Et ça sera l'icône.
Ouais, mais justement, ça vous fait pas
si flipper
qu'il concentre.
Marie Martineau.
Moi, j'aime pas trop cette idée de concentrer tous les pouvoirs quand même sur une seule personne. Ça donne quand même souvent, en politique par exemple.
Ouais, j'étais sûr que t'allais venir sur ce terrain-là.
C'est vachement flippant là. C'est Pol Pot quoi. Donc je sais pas. Moi, j'ai un peu du mal avec l'idée de concentrer tout, absolument tout, même du coup le capitanat sur les épaules de Kylian Mbappé.
Ouais, mais regarde, il y a un autre mot qui est important, c'est la motivation. Et la motivation, moi, ce mec-là, il me bluffe parce que il est capable à n'importe quelle minute de jeu.
Et pas Griezmann. Griezmann te bluffe pas du tout. Il court partout comme un chien.
En Coupe du Monde, quand il y a des gros matchs, ok. Griezmann. Contre
c'est
la Lituanie
demande,
ou contre Andorre, Mbappé il est capable d'aller chercher le ballon dans le but parce que ok il veut augmenter ses stats et si tu veux, mais en termes de motivation, moi ce type là je sais pas où il va chercher tout ça, Kylian Mbappé, mais c'est le summum du summum. Ouais.
Il a déjà
en dessous.
Il a déjà beaucoup de boulot, et vous voulez lui enfiler un peu plus, comme ça,
c'est
au moins.
C'est pas beaucoup plus de boulot, en fait.
C'est pas beaucoup plus de boulot d'être capitaine.
Non, mais tous tes œufs dans le même panier, c'est chaud.
Capitaine de l'équipe de France, c'est pas capitaine en club, où toi, tu dois répondre à toutes les interviews chaque semaine.
Non, là, en dehors des interviews, au sein de l'équipe, faire passer tes messages, c'est quand même un soliste, Kylian Mbappé. Il a besoin de
mais justement.
Tout le monde vers le haut.
Justement,
tu vas le rendre meilleur. De mon point de vue, tu vas le rendre meilleur. Justement, tu vas l'enlever des il va se défaire des travers qui pourraient peut-être le gagner parce que c'est une star planétaire. Moi, j'ai simplement peur de ça. Je lui veux du bien et je me dis qu'en lui donnant le brassard de capitaine, on l'investit de responsabilités qui l'oblige à observer l'exemplarité.
Il a déjà un paquet des responsabilités.
Ouais, c'est ça. Vous
tout
êtes dur.
Filer, quoi.
Il avait la responsabilité.
Mais il a gardé le Paris Saint-Germain. Voilà.
Christophe, on lui a confié les clés du Paris Saint-Germain. Il avait droit à une vie ou de mort sur tout le monde. Alors de lui filer le brassard en équipe de France, tu crois que ça va être quelque chose d'insurmontable pour lui?
Non, pas insurmontable. Alors est-ce que le fait de leur avoir filé les clés du Paris Saint-Germain, c'est probant? C'est un autre débat, mais ça fait trop. Et même pour nous, tu vois, en tant que spectateur, enfin, alors on va résumer le football français à Kylian Mbappé.
Non, pas pourquoi.
Parce que lui, il sera partout,
admettons que Mbappé et Griezmann ne souhaitent pas et déclinent cette responsabilité-là. Vois-tu un autre joueur
Ouais, c'est ça le problème.
Aujourd'hui, qui est légitime pour être capitaine de l'équipe de France, ma chère Marie. Il te reste 2-3 minutes pour nous rejoindre.
Il
connaît en plus le timing de cette émission.
Mais je l'aime tellement.
Le contrat est prêt, tu n'as plus qu'à signer.
Kimpembe, pourquoi pas, pour répondre à ta question, tu exclus Griezmann d'emblée, alors que moi, c'est un peu mon poulain. Voilà, vous l'aviez compris, quoi. Je dis non à Mbappé pour dire oui à Griezmann. Donc, forcément, si tu l'enlèves, j'ai plus beaucoup de choix, c'est vrai.
Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce débat. Je vais voir quand même si vous avez réussi à inverser cette tendance. Juste pour être sûr, Marie Martineau, Christophe Cessieux, vous restez dans le camp sûr, non. du
Ils
compte.
Ils n'ont pas du tout convaincu, les deux, là. Ekel et Jekyll n'ont pas du tout convaincu.
Hensel et Gretel.
Marie.
Non, moi, je ne change pas d'avis.
Ok, c'est
sûr. Mais la prochaine fois, moi, j'arrive à 11h30, hein, Jean-Christophe, pour l'émission. Hein.
Tiens, non, juste une dernière question, Pascal. C'est vraiment important le choix du capitaine ?
Ah, bah oui, c'est primordial, bien sûr. Ah. Comme l'a très bien dit Marie, le relais du sélectionneur, bien entendu. Et puis aussi la légitimité par rapport aux joueurs. Mais là, il s'agit de l'excellence du football français. Les meilleurs joueurs français qui se retrouvent, t'es bien obligé de donner le brassard. Je sais pas, Maradona avait le brassard, Cruyff avait le brassard, Ronaldo avait le brassard, Messi a le brassard. Et il y a que les Français qui
non, mais Laura, mais un
donc
peu
les Français, je parle de deux, hein. Il y en a deux seulement, hein. Il y en a deux, il y a Christophe et Marie. Tout le monde veut que ce soit Mbappé.
Il est surchauffé aujourd'hui.
C'est vrai que quand tu regardes la liste, malgré tout, il y a quand même pas beaucoup de choix, c'est ça le problème.
Non, en dehors ça aurait pu Kylian être Pogba à une époque.
De Griezmann, mais là, dans les anciens, t'as Rabiot. Tchouaméni, je pense, sera un très bon capitaine, mais il est encore un peu jeune et peut-être pas encore la légitimité.
Très jeune. Hein. Et Adrien Rabiot, la question lui a été posée en conférence de presse par un journaliste italien en lui disant, bon, quel est votre regard sur les clubs italiens en Ligue des Champions ? Rien à voir, évidemment, mais bon, il devait faire son papier, le mec aussi, il faut bien comprendre. Hein, il faut bien qu'il mange. Hein. Et puis aussi, il lui a dit, et Rabiot, capitaine, est-ce que ça vous intéresserait ? Il nous dit, alors là, je ne m'attendais pas du tout à celle-là.
Cette question.
Non, ce ne sera pas lui, et voilà, qui reste comme il est, bon, on a compris que ce ne sera pas Adrien Rabiot. Une dernière question, Pascal, c'était qui ton meilleur capitaine ? Tout confondu, là.
Capitaine,
dans ton histoire.
Olivier Sorlin, à l'ETG, était un excellent capitaine. Olivier Sorlin, qui a joué à Monaco, à Rennes. C'est un exemplaire dans l'attitude, voilà.
Ok.
C'était le vrai bon capitaine qui savait aussi se mettre face à l'entraîneur. Et
c'était la star de ton équipe ou non ?
Non.
Ah bah voilà, non, tu vois, t'avais pas choisi la star de ton équipe.
Un joueur de Ligue 1, mais mais en fait, il savait aussi venir me trouver et me dire, Pascal, coach, est-ce qu'on pourrait faire autrement concernant telle ou telle chose, ce déplacement, ces entraînements, voilà. Est-ce qu'on pourrait raccourcir ? Voilà, un vrai échange.
Et du coup, tu as fait des changements des fois, par exemple.
J'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait longtemps que j'entraîne. J'ai beaucoup entraîné chez les amateurs. Moi, d'abord, la priorité, c'est que j'aime les garçons que je coach et leur avis m'importe. Voilà. Ça m'a toujours importé d'avoir l'avis de mes joueurs sur tout ce qui était la vie tout au long de la saison de l'équipe.
Et comme ça, t'étais à l'abri des putschs. Hein. On en parlait.
Non,
pas
à l'abri, parce que l'homme est ainsi fait. La démonstration en a été faite avec les biathlètes pour moi.
Ah, peut-être
l'homme
qu'ils n'ont pas eu sa capacité à se mettre en question aussi. On le sait pas,
Absolument.
Oui.
Ok, il est 11h21. On va arrêter ce pour ou contre autour de Kylian Mbappé, prochain capitaine des Bleus, Didier Deschamps.
On a retourné la situation, non ?
Didier Deschamps, là. Annoncé, en tout cas en conférence de presse. D'abord.
Est-ce que les prochaines émissions, tu pourras nous mettre des gens en face ?
Alors, c'est pas vrai ?
Non, Didier Deschamps.
C'est bien parce qu'ils choisissent la doxa, ils sont bien dans le cadre, évidemment. On va aller comme l'ensemble de la population. Surtout ne prenez pas de risques tous les deux. Hein. Surtout pas.
Hein. Didier Deschamps attend de voir son groupe avant d'annoncer à la presse le futur capitaine. On pourrait imaginer un brassard tournant. Ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas dans son dogme. Il l'a dit, Didier Deschamps. Donc, il désignera un capitaine très prochainement et donc avant le match face aux Pays-Bas vendredi prochain. Alors, est-ce que vous avez réussi à inverser cette tendance ? Nous sommes partis à 62-38.
Ça n'a pas bougé.
Eh bien, sachez les copains. Que ça a été nul et non avenu. 62-38, on est resté comme
parce
ça.
Parce que personne n'a voté depuis.
Alors si, il y a plus de 2000 votes, les copains. Donc ça se bouscule pour aller vite sur le compte Twitter des grandes gueules du sport.
Oui. Et une autre question, est-ce que Didier Deschamps va le nommer capitaine pour vous ?
Exact.
C'est une bonne question, ça.
Oui, ouais. On fera cette émission plus tard, non?
Mais non, on a 3 minutes, là, regarde, le chrono, on a encore un peu de temps.
La semaine prochaine, je sens qu'on va y avoir droit.
Alors.
Non, mais ce sera fait déjà.
Alors,
non,
attendez.
Oui, mais on va avoir un sujet là-dessus.
Ah oui, as-tu eu raison?
Je le fais en deux temps, si vous voulez bien. Déjà, est-ce que cette question est intéressante, Marie Martineau?
Non.
Non, très bien. Renaud Longuèvre.
Marie.
Ah ben, je me suis dissociée.
Non, Pascal Duprat.
Oui, j'aimerais au moment où on se parle, j'aimerais savoir ce qu'il a l'intention de faire.
Ok, c'est du 2 contre 1, donc on ne va pas poser cette question en direct dans les grandes gueules.
Toi qui est quand même le roi des paris sur RMC, voilà, on pourrait faire des paris sur Deschamps, va-t-il nommer Mbappé capitaine?
Tu sais qu'on est en train de perdre du temps pour ta chronique, pourtant c'était mieux avant dans quelques instants.
Non, mais il rappelle Benzema, il lui donne le brassard, non, je rigole.
Waouh.
Ah, ça, on aurait pu poser la question. Ça, ce serait beau. Ça, ce serait panache. Merci Pascal pour cette proposition.
Mbappé ou Griezmann.
Oui, on a bien compris ça.
Ouais. Surtout
11h23, on se retrouve dans quelques instants. Le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux, 1977. Les Invincibles, le grand chelem du 15 de France. A tout de suite pour ce moment de bonheur de nos bleus.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h27, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martineau, Pascal Duprat, Renaud Longuèvre et Christophe Cessieux. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir à cette émission. Un seul moyen, vous composez le 32-16 et vous venez expliquer, faire la chansonnette à une GG autour de la table. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un débat, vous venez lui dire en face. Pour notre plus grand plaisir, on a parlé de rugby avec le 15 de France, de Ferrari, des athlètes qui veulent prendre le pouvoir, de Bernard Laporte qui est toujours là autour du 15 de France, d'Mbappé en mode capitaine. Voilà, venez nous dire, il y a eu beaucoup de sujets étayés dans cette émission. Mais vous le savez, tous les dimanches à 11h30, Christophe Cessieux nous compte un moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avant-français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le Pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Le tournoi Destination 1977 et le règne des 5 nations, pardonne-moi, et le règne des Invincibles.
En cet hiver 77, alors que la France de Giscard se débat contre les effets de la crise économique, que Claude François vit ses derniers mois de chanteur vedette, la France du sport, elle, se prépare à connaître ses plus belles années. Dans les baquets de Formule Renault, un jeune pilote nommé Alain Prost rafle course sur course et s'apprête à faire ses débuts en Formule 1. Pendant qu'en football, un autre jeune prodige originaire de Nancy découvre, lui, le maillot bleu de l'équipe de France, avec laquelle il va rapidement apprendre à gagner. Mais en ce début d'hiver, les Bleus dont on parle le plus sont au nombre de 15. 15 hommes de fer qui composent l'équipe de France de rugby. Battus d'un rien l'année précédente au Pays de Galles, les Bleus se sont vus privés d'un grand chelem attendu depuis 8 ans. Alors, ce samedi après-midi, sur leur pelouse fétiche du Parc des Princes, ils comptent bien étriper les Diables Rouges de Gareth Edwards, vainqueur de 7 des 12 derniers tournois et considéré comme la meilleure équipe au monde. Et pour cela, les gros par-dessus de la Fédération française comptent sur un homme en particulier. À 29 ans, Jacques Fourroux a été nommé capitaine de l'équipe de France pour ce match. Un timonier qui entend bien, une fois pour toutes, devenir le vrai patron des Bleus, lui qui depuis plusieurs saisons subit la concurrence du demi de mêlée et capitaine de Béziers, Richard Astre.
Abondance de biens peut parfois nuire. Prenez l'équipe de France de rugby. Elle a deux capitaines potentiels, Fourroux et Astre. Deux capitaines, chacun le sait, c'est trop pour une seule équipe. Donc, casse-tête chaque fois pour les sélectionneurs.
C'est Jacques Fourroux qui a été choisi. Fourroux, le chef de famille, qui sera donc également aux commandes du 15 de France devant les Gallois. Ainsi donc, le chassé-croisé Fourroux-Astre se poursuit.
Le ballon pour Astre. Le roi Richard et son jeu chatoyant, tellement différent de celui de Fourroux, le roquet, meneur de gros, vainqueur cette année-là, par KO.
On était quelques-uns, les postulants. Poste de demi-mêlée très convoité. C'était la guerre. Il y avait eu un sondage où, bien sûr, j'étais dernier. Mais c'est moi qui jouais. Vous voyez, c'est rigolo, non, quand même. Ça en fait des erreurs de casting, des erreurs. Mais bon, il en fallait qu'un, hein. Non ? Il en fallait qu'un.
Et le sondage publié dans l'équipe qui plébiscite Astre, désiré par 71% des lecteurs, n'y fait rien. C'est Fourroux et c'est seulement 13% d'admirateurs qui portera le brassard cet après-midi. L'horloge du Parc des Princes approche maintenant des 15h. Il est temps de retrouver Pierre Albaladejo et Roger Coudert, fin prêt à faire vibrer les téléspectateurs d'Antenne 2. Alors, bah là, la France, favorite ?
Je trouve que tout le monde est très optimiste ici et faut pas perdre de vue quand même que l'équipe du Pays de Galles est peut-être une des meilleures équipes du monde, c'est sûr. Mais elle domine le tournoi depuis 5 années et je crois que ça serait une, non pas une surprise, mais un grand événement si la France gagnait tout à l'heure.
Mais je pense que ça serait un exploit et je crois que les Français vont accomplir cet exploit.
Rassemblés en rond autour de leur capitaine à l'écoute de la Marseillaise, les Bleus, regard noir et muscles saillants semblent déterminés. Dans le vestiaire, la préparation a été musclée tout autant que les consignes. Roland Bertrand, le trois quarts centre des Bleus, se souvient de celle donnée par Fourou à son deuxième ligne, Michel Pamier, son 1m97 et ses 118 kilos.
J'arrive à Pamier, il y avait J.P.R. William là, l'arrière qui aimait bien revenir au milieu des avants pour aller un peu défier. Jean-Claude Fourou lui a dit, si on peut l'attraper, bon, faut pas le manquer. Et Palmier, il a dit, tant pis s'il joue plus au rugby. Et ils l'ont attrapé aussi. Je crois qu'il n'était pas content.
Et attention, Pierre, si l'arrière des Dragons et ses fameuses rouflaquettes s'en sortiront ce jour sans mal, d'autres auront moins de chance dans le futur. Les exploits de la Palme, sorte d'Obélix bitérois, lui vaudront même les honneurs du Times, qui en fera l'un des 10 rugbymen français les plus effrayants de l'histoire, rien que ça. Mais si le 15 de France fait peur et fait mal, il sait aussi manier le ballon. Et à la 55e minute, Dominique Arize, l'ailier des Bleus et du Stade Toulousain, qui a remplacé à la dernière minute un jeune joueur nommé Guy Noves, inscrit le deuxième essai français, celui de la victoire.
Sangali dans les 22, Bastia, Fourouk, que c'est beau, Fourouk, Arize, Romeu, et c'est laissé par Arize. Quelle merveille!
Je crois quasiment toute l'équipe a touché le ballon. Et moi j'ai fini le boulot de ce qu'avaient fait les autres. Quoi. C'est...
Les Rouges sont balayés 16 à 9. Et pendant que la presse française s'enorgueillit du succès des Bleus, de l'autre côté de la Manche, on se prépare au traquenard. Oui, car voici que se profile le crunch face à l'ennemi héréditaire anglais. Les Bleus y sont présentés comme une horde sauvage. Les tabloïds appellent même à descendre Jean-Pierre Bastien, le troisième ligne de français, auteur d'une cravate sur un Gallois 2 semaines plus tôt. Alors, à leur arrivée à Twickenham, la bande à Fourou reçoit un accueil musclé. Le journaliste Denis Lalanne couvrait ce jour-là la rencontre pour l'équipe.
À l'entrée de l'équipe de France à Twickenham, on leur a craché dessus. C'est tout à fait authentique. Ça a été, je pense, le pire que la France ait subi à Twickenham.
Et la rencontre sera du même tonneau. Jean-François Imbernon, le solide deuxième ligne des Bleus, en garde un drôle de souvenir.
C'était le Boucherie. Voilà, c'était le Boucherie. Alors c'est sûr que maintenant, avec la loupe et les nouvelles règles d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait fini à 3 contre 3 devant, mais bon, je sais pas. Ouais, le troisième ligne aurait pu jouer les uns contre les autres, voilà, parce que c'était les seuls qui peut-être étaient moins sollicités, je veux dire.
Oui, mais rien n'y fait. La horde sauvage de Fourou va même s'imposer en terre anglaise sur un score d'un autre temps. 4-3. Les 4 points que valait à l'époque un essai, en l'occurrence celui de François Sangali.
Fourou, Aguirre, Avrous qui surgit, Aguirre encore et Sangali, c'est l'essai 4-3. C'était le score final.
Eh bien, on s'en souviendra de ce dernier quart d'heure à Twickenham. On s'en tire, la route du Grand Chelem reste ouverte et après ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois que tout est possible à l'équipe de France.
Et pourquoi pas, je vous sens toujours optimiste, Roger, c'est chouette.
Roger Couder est optimiste, mais la presse française, elle, fait la fine bouche. Le journaliste de TF1, Bernard Giroux, va même vexer Fourou par ses questions.
Jacques Fourou, vous ramenez dans vos bagages une victoire, un succès peut-être sans éclat ni prestige, mais une victoire tout de même.
Succès sans éclat ni prestige, c'est vous qui le dites. C'est un match excessivement difficile à jouer et devant une excellente équipe. Alors, je crois que c'est une grande victoire du 15 de France.
Mais ces critiques, les Bleus vont s'en nourrir pour la suite du tournoi. Oui, seul face au reste du monde, la bande à Fourou se recroqueville sur elle-même. 2 semaines plus tard, la voilà à nouveau réunie à Paris pour préparer le match face à l'Écosse. Une préparation à l'ancienne, entamée, c'est une tradition, le mercredi midi, à seulement 3 jours du match, par un déjeuner arrosé dans un restaurant parisien.
On vivait entre nous. Je vais vous raconter, moi. Nous nous réunissions. Alors ça s'appelle l'Enclos de Ninon, boulevard Beaumarchais, je crois, à Paris. Un truc extraordinaire. L'ancien coin frais, vous ne pouvez pas imaginer. Coin frais. Et jusqu'au dernier match, on essaie de retrouver les 15 là-bas. 15. Et on se retrouvait, c'était là, la communion. La communion, voilà, le mot-clé, il est là. Il y avait communion.
Et après un tel repas pantagruélique, difficile évidemment d'attaquer l'entraînement. Le rassemblement commence donc par une sieste réparatrice. Mais ne vous y trompez pas, trois jours plus tard, sous le doux soleil du printemps parisien, ils sont prêts à défier l'Écosse. Un match que les Bleus vont dominer de la tête et des marrons, et notamment celui de Gérard Chollet, Chollet marron évidemment, le pilier castré, ancien para devenu boxeur poids lourd, avant de découvrir le rugby. Pour autant, il n'a pas oublié ses années sur le ring, et McDonald, de troisième ligne écossais en position de hors-jeu, va en faire l'amère expérience.
On nous avait dit, les gars, les mains dans les poches, on ne répond pas, etc. Même s'ils sont hors-jeu. Et là, à la maison, on a dit, quand ils vont le dire à la maison, ça va changer de situation. Et manque de peau.
Oh,
alors là, j'ai vu un mauvais geste de Chollet. Je le dis comme je l'ai vu.
C'est un petit réflexe. Bon, ben, ouais, le pauvre. Bon, et il faut être efficace. Je pense que je l'ai été.
Je connais assez Chollet, qui est un garçon très correct. Il y a eu sûrement quelque chose que nous n'avons pas vu dans la mêlée. Mais par contre, le geste de Chollet, le crochet du droit de Chollet, nous l'avons vu.
Et McDonald aussi l'a bien vu. KO pendant plusieurs minutes, il reprend finalement sa place sans qu'aucun protocole commotion ne soit pratiqué, ni aucun carton distribué. À l'époque, tout cela n'existait pas. Un geste qui vaudra tout de même à Chollet les réprimandes d'Albert Ferras le soir au banquet. Le président pensera même à exclure le pilier pour le dernier match avant que Jacques Fourroux ne se lève et apostrophe Ferras lui disant « Ne changez aucun joueur président et je vous promets qu'on fera le grand chelem. » Non, on part à 15 et on finit à 15. Tel était l'état d'esprit de la bande à Fourroux. Les 15, que voici désormais sous la pluie de Dublin pour le dernier match de ce tournoi, celui qui doit les conduire au grand chelem. Cette fois-ci, dans le vestiaire, ça ne rigole plus. Toto Desclos, l'entraîneur des Bleus, a même préparé une petite surprise à ses joueurs, histoire de les faire grimper au rideau.
Sur le sol du vestiaire, un magnétophone dans lequel on a glissé une petite cassette. Et c'était Nabucco de Verdi, le chant des esclaves. Et on se tenait comme ça, tous en cercle. Vous voyez qu'il y avait 15 mecs là qui étaient prêts à... Oh, j'allais dire à mourir, n'exagérons pas, mais c'était chaud quand même. Match en Irlande, dernier match du Grand Chelem. Et là, nous avons eu nos 3 minutes de Nabucco.
Et le cœur des esclaves résonne encore dans les têtes des hussards français lorsqu'à la 48e minute, Jean-Pierre Bastiat inscrit l'essai de la gagne, celui du Grand Chelem.
Zangali, Aguirre, Aguirre, plein champ,
Paco.
Aguirre, Paco, Bastia,
Pascal qui va marquer,
Pascal est le sommet, et Pascal Plateau,
magnifique,
oh vive la France,
douce pour la France avec la transformation d'Aguirre, les Français ont gagné le grand chelem.
Le petit caporal a tenu sa promesse. Les Bleus sont sur le toit de l'Europe, un succès qui n'apportera pas pourtant à son capitaine la popularité. Non, pour les amoureux du jeu à la française, Fourroux restera à jamais le suppôt du rugby de tranchée, rugby de muerte, indigne du French flair. Quelques mois plus tard, après une défaite face aux All Blacks, il subira même une interview musclée de la part de Pierre Salviac.
Jacques Fourroux, vous voici aujourd'hui le capitaine d'une équipe de France qui perd. Alors qu'est-ce que ça va changer?
Ce qui peut changer, c'est ce soir au cours du banquet, je me trouverai dans la peau d'un capitaine qui a perdu. Je n'en avais plus l'habitude.
La véritable sanction, c'est celle du public. Vous avez fait plus de mal au rugby que de bien.
C'est là aussi votre avis, mais je t'en parle du contraire. Vous n'avez quand même pas de grandes références rugbystiques. Beaucoup de gens qui me jugent sont un peu dans votre cas.
Vous êtes un grain petit, vous avez une passe de maçon, vous ne plaisez pas. Alors qu'est-ce que vous faites dans le 15 de France?
Passe de maçon, d'abord il n'y a pas de sous-métier. Peut-être un grain petit, effectivement. Je m'y sens bien. On me prend, je viens.
Et 3 semaines plus tard, après un pâle succès contre la Roumanie, Fourroux, le mal-aimé, choisit de quitter les Bleus et son brassard plutôt que d'être viré à coups de pied aux fesses. Un au revoir plutôt qu'un adieu pour le Gascon qui, en 1981, tel Napoléon revenant de l'île d'Elbe, est rappelé pour devenir le nouveau sélectionneur. Mais à la différence de l'empereur, le petit caporal ne restera pas seulement 100 jours à la tête des Bleus, mais 9 longues années. 9 ans de succès, 6 tournois remportés, dont 2 couronnés d'un grand chelem. L'époque des Rives, Blanco, Cella et autres Charvet. Les artistes français du ballon ovale menés d'une main de fer par un fabuleux technicien dont on disait pourtant qu'il avait une passe de maçon.
exceptionnelle histoire racontée par Christophe Cessieux, les Invincibles de 77. J'ai la réponse à la question que je vais vous poser. Je vous la pose, les GG. Que retenez-vous de cette fabuleuse histoire des Invincibles, Marie Martineau?
Deux choses. Le Nabucco de Verdi, que j'entendais quand j'étais petite, parce que ma mère était fan de ce morceau. Elle le mettait souvent à la maison et c'est un morceau avec lequel j'ai grandi. Et donc, je l'imagine dans le vestiaire comme ça. Et j'imagine un espèce de moment incroyable. Tu me l'as conté, en tout cas, de cette manière-là. Et la violence de l'interview.
Incroyable.
Vous êtes un gars petit. Ah bah d'accord.
Les réponses ouais, du tac au tac, mais aucune.
Je me demande s'il n'y avait pas de la complicité finalement entre les deux et que c'était pas. Parce que ça semble tellement gros que c'est dingue, quoi.
Mais en tout cas,
c'était
je me dis.
Préparé. Oui.
Parce qu'aujourd'hui, tu dis ça à un joueur.
Il te met une baffe,
ah, mais ça part en pugilat. Enfin, j'imagine. Pascal Duprat, que retiens-tu?
Oui, moi, je voulais dire deux choses, si tu permets, Jean-Christophe. Bien sûr. Je peux complètement répondre à ta question. D'une part, remercier Christophe et à la fois le pardonner. Donc je le pardonne d'être arrivé qu'à 11h30 parce que franchement le talent on autorise tout. Donc c'est juste génial.
Merci,
ok. Donc vraiment c'est juste génial. Et en fait je me suis replongé en voyant Fourou, toutes ces images et puis plus tard quand il était sélectionneur, Rive le maillot maculé de sang. Mm-hmm. Voilà. Donc merci pour ça. Et puis la prochaine fois tu peux venir à 11h30 et puis tu mérites une augmentation, je te le dis bien volontiers parce que c'est pas moi qui te paye.
T'as bien raison, on va en parler. Je vais devoir pousser en ce sens, mais vu ce qui s'est passé à 9h30 dans ce studio où j'ai été violenté par Christophe Cessieux, il n'est pas impossible que je monte pas au front. Voilà, on verra, mais bravo, c'est vrai Christophe. Renaud,
moi ce que je retiens c'est l'échange avec Ferras où Fourou demande à maintenir Cholet, qui en dit long sur ce qui va se passer, sur la relation du fils maudit en fait entre Fourou et Ferras, qui va trouver un développement avec la finale quand Fourou est entraîneur de Grenoble en 93. Mm-hmm. Où l'arbitre est nommé par Lapasset et Ferras, qui étaient devenus les ennemis politiques de Fourou. Mm-hmm. Et l'arbitre, je sais pas si vous en rappelez, qui accorde un essai,
Grenoble en finale,
qui fait perdre Grenoble et ça fait toujours parler. Et c'était quand même un rugby d'un autre temps et Fourou qui est allé derrière jusqu'à l'affront ultime, créer une ligue professionnelle de rugby à 13 pour aller tête contre tête avec Ferras.
Le Direct Studio, il y a Eric qui nous dit « J'ai adoré, que de souvenirs, merci pour ce moment. » Évidemment, tout laisser t'es mieux avant à retrouver en podcast. Il y a une petite vignette maintenant, juste à côté des grandes gueules du sport. Il y a la magnifique tête de Christophe Cessieux, mais c'était mieux avant. N'hésitez pas à y aller, vous pouvez tout réécouter. Et personnellement, pour un humoriste comme moi, mention spéciale à Cholet Marron. Voilà, franchement,
ah ouais, Cholet Marron, bon.
Sublime. Tu vois, même dans l'extrait, je rigolais alors que j'avais encore le micro ouvert, je n'aurais pas dû, mais voilà, c'était de bon cœur.
Semaine prochaine, je vous parle de mon idole de jeunesse.
Alors, attends. Rocco Siffredi?
Non, j'étais déjà grand. J'étais déjà grand, c'est ma deuxième idole.
Je me suis dit, 12 minutes sur Rocco, c'est qui?
Johan Cruyff.
Cruyff, oui. Ça va plaire à Pascal. Ça.
Ah ouais, je pense.
Ça, il va adorer, ce sera dimanche prochain. Viens donc juste pour 11h30,
ouais, voilà.
On a bien compris, c'était le message. C'était le message de Pascal. 11h45, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes nombreux à nous appeler, à vouloir réagir à cette émission, le 32-16. N'hésitez pas, venez affronter une GG. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h48, de retour dans les grandes gueules du sport avec Renaud Longuèvre, Pascal Duprat, Marie Martineau, Christophe Cessieux et vous, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport. Et vous?
Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire au 32-16, sachez qu'à partir de midi, les paris RMC autour de Reims-Marseille, de Paris-Saint-Germain-Rennes, bref, vous aurez toutes les cotes de la journée. David nous appelle au 32-16, salut David.
Salut à tout le monde, salut les GG du sport.
David qui a réagi, merci beaucoup David, nous allons très bien, qui a réagi en direct via le Direct Studio, il voulait réagir au débat de 10h sur la République des athlètes. Tu n'étais absolument pas d'accord avec ce que tu entendais dans le studio RMC. Tu vas affronter qui ce matin?
Marie.
Marie Martineau.
Alors que j'adore Marie.
Vas-y,
là, sur ce
David.
Coup-là, Je suis pas d'accord.
Okay.
Je suis pas d'accord.
Vous étiez là, Marie, non, aujourd'hui.
Je suis pas d'accord parce que maintenant les athlètes décident de tout. Très bien. Ok, moi j'ai fait 10 ans de natation, j'ai toujours respecté mon coach. Alors virer un coach, alors c'est bien de dire ce monsieur ou cette madame n'est pas compétente au bout de X années. Très bien, sauf qu'ils ont fait des formations, etc. On pense qu'aux athlètes, mais on pense pas à ceux qui sont en train de les entraîner, etc. Qui ont fait des formations, qui ont été champions, oui, etc. Et en fait, on les laisse tomber comme ça. D'un coup de cuillère, boum, merci, au revoir, tu me conviens plus, merci, au revoir, bah, qui s'entraînent tout seuls à ce moment-là. Vu qu'ils savent l'entraînement qu'ils doivent faire, vu qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, etc., qui restent avec leur coach d'entraînement, de relaxation, etc. Mais qui prennent plus d'entraîneurs. À ce moment-là, qui prennent plus d'entraîneurs.
Notre débat, c'était sur...
D'entraîneurs qui s'entraînent tout seuls, vu qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, qu'ils s'entraînent tout seuls. Là, je suis pas d'accord.
J'entends, David.
Moi, j'ai toujours respecté mon entraîneur. J'ai fait 10 ans de natation, j'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il me faisait faire. Mais par contre, je l'ai toujours respecté. Maintenant, un coup de cuillère, bouf.
Ok, David, on va laisser répondre Marie, juste pour vous, si vous nous prenez en route, chers auditeurs. On parlait de l'équipe de France de biathlon, avec ces biathlètes qui ne voulaient plus de leur entraîneur, et évidemment ça faisait référence à Corinne Diacre, avec le problème avec certaines cadres de l'équipe de France. Vas-y, Marie.
David, j'entends ce que tu dis, je pour une partie, je suis assez d'accord. Il faut quand même essayer de trouver des solutions avant de se séparer. Pour autant, faire une carrière, mener une carrière, quand on a l'ambition d'être un très grand champion, et c'est, je pense, le cas de Quentin Fillon-Maillet, d'Emilien Jacquelin et les autres, c'est faire des choix. Malheureusement, et des fois, les choix sont douloureux, mais il faut savoir les faire au bon moment. Ça fait partie de la construction de ta carrière. Moi, j'ai dû me séparer une fois dans ma carrière d'un ski tech avec qui ça ne passait pas du tout bien. C'était un choix très difficile. Je l'ai fait à un mois des Jeux de Sochi et pour autant, je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire à ce moment-là parce que il m'a permis de rencontrer quelqu'un d'autre qui est devenu le ski tech avec lequel j'ai le plus travaillé derrière et qui m'a apporté énormément. Et finalement, ce choix était difficile. Des fois, c'est le plus difficile de faire le coup de la cuillère dont tu parles là. C'est pas forcément hyper simple à mettre en place.
Ok, merci David d'avoir composé le 32-16, d'être venu dans les grandes gueules du sport. On accueille Alcin ou Alcine ? Je pose la question. Salut Alcin ou Alcine ?
C'est Alcin. Bonjour messieurs.
Alcin. Oui, on t'entend parfaitement. Si la ligne saute, bon, on t'entendra plus. Okay. Tu vas affronter qui ce matin ?
Concernant le capitaine Christophe
Cessieux. Aïe, aïe, aïe. Il y a un petit problème sur la ligne. On va tenter de... Il s'en sort bien, Christophe Cessieux, sur ce coup-là. Oui. On revient dans quelques instants. Stéphane nous appelle également. Salut Stéphane. Stéphane ?
Oui ?
Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Stéphane, tu veux t'attaquer à qui ?
À Pascal.
Pascal, pour quelle raison ?
Pour la réussite ou non du tournoi de l'équipe de France pour le tournoi.
Il mérite bien que tu
Pascal
l'attaques.
Pascal disait non, vas-y.
J'ai vraiment pas de chance. Moi. Normalement, ça doit être Christophe. Et voilà pas que je me fais découper, j'ai rien demandé à personne.
Stéphane.
Oui, donc même si je comprends un peu son opinion, c'était pas une réussite. Pour moi, personnellement, je trouve qu'au contraire, ça a été une réussite, ce tournoi. Pourquoi ? Parce que vous perdez qu'un seul match contre l'Irlande, qui est, je pense, si je ne me trompe pas, est numéro 1 au classement IRB.
C'est ça.
Donc, au-delà de cette défaite-là, il y a eu réaction à la suite des matchs suivants contre l'Écosse. Bon, on revient pas sur le match d'Angleterre et le match d'hier soir. Et je pense surtout que Christophe Galtier et son staff...
Fabien Galtier,
vont se servir justement de ce match de l'Irlande pour la Coupe du Monde.
Ok, quelque part, c'était pas plus mal qu'il y ait un petit accroc parce qu'on n'arriverait pas trop en confiance.
Voilà. Surtout, je pense qu'on aurait eu... Mettons qu'on aurait eu encore un grand chelem sur ce tournoi-là, les titres étaient l'équipe de France et championne du monde.
Ok, la réponse de Pascal.
Stéphane, en fait, ce que je voulais dire, et ça m'attriste que tu ne l'aies pas compris, c'est que je veux du bien à l'équipe de France, et que comme je les porte en haute estime, je pense que c'est la meilleure génération que le rugby français n'a jamais eue. Et pour moi, elle doit être invincible. Et je pensais que ce tournoi allait être la confirmation de ce que nous avons vécu depuis la nomination de Fabien Galthié, à savoir le début de l'hégémonie de l'équipe de France sur le rugby mondial. Et dans l'hémisphère nord, eh bien, ils ont encore des petits Irlandais qui nous contrarient beaucoup. Et c'est pour ça que je trouve que le tournoi n'est pas une complète réussite cette année.
Ok, merci à Stéphane d'avoir composé le 32-16. On a retrouvé Alcin. Alcin, ça marche ?
Ah bah, vous m'entendez bien, messieurs ?
Parfait. Tu vas affronter Christophe. Sur quel sujet ?
Sur le capitanat de Kylian.
Ok, Christophe était contre pour Mbappé, capitaine de l'équipe de France de foot. Il t'écoute.
Bonjour tout d'abord, messieurs. Christophe, bonjour. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi concernant le capitanat. Dans le premier temps, parce que Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est pas seulement le meilleur joueur du monde, mais il est l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, aux côtés de Platini et Zidane, et peut-être même qui va bientôt les dépasser. Et aujourd'hui, Mbappé, le capitanat, en fait, ça fait partie de son destin, de son avenir. Tous les meilleurs joueurs de leur sélection portent le brassard. Neymar, il porte le brassard au Brésil. Messi, il porte le brassard en Argentine. Cristiano, il porte le brassard au Portugal. Aujourd'hui, même dans leur club respectif, Karim Benzema, il porte le brassard. Mbappé, il doit prendre le brassard, non seulement Paris Saint-Germain, mais en équipe de France. Après, on parle souvent de Griezmann. Griezmann, il revient assez souvent, mais on n'est même pas à l'abri que d'ici l'Euro, il n'y ait pas un joueur français, vu notre formation qui est excellente, qui prenne la place de Griezmann. Mbappé, c'est le futur de l'équipe de France. C'est le footballeur qui a beaucoup, beaucoup plus d'influence au monde. C'est le sportif français qui a le plus d'influence au monde. C'est un athlète hors norme, exceptionnel. Il a le plus grand nombre de followers sur les réseaux sociaux. On parle souvent de Mbappé. Il va arriver en conférence de presse et il fera des frasques. De tous les sportifs que j'ai connus, Mbappé, c'est l'un des plus intelligents. Je pense que Mbappé, en portant le brassard, quand il arrivera en conférence de presse, il saura ce qu'il doit dire et ce qu'il doit pas dire. Assez mature, assez structuré pour ne pas faire de gaffe. Et en plus de cela, Mbappé, c'est un joueur qui est boosté par le challenge. On lui donnera le brassard et il sera encore meilleur. On l'a vu ces derniers temps quand on critiquait dans les médias. Le mec, il restait stoïque et il marquait des buts. C'est ce qu'il aime, en fait. Il est programmé, si vous voulez, pour briller. Il est programmé.
Ok, on a un petit problème de nouveau avec la ligne. Il est très bon, Alcin.
Ouais, très bon, Alcin, mais je remets pas du tout en doute les qualités de footballeur de Kylian, ni même son leadership sur le groupe. Je dis juste que je m'attends à quelques incendies allumés par Kylian, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et on demande justement à un capitaine, souvent dans le sport actuel, dans le sport du 21e siècle, eh bien, de ne pas faire de vagues. Et ce genre de choses, il sait pas le faire.
Ok, voilà. Tu restes sur tes positions, on l'a bien compris. Exactement. Merci à tous les copains qui ont voulu réagir dans cette émission. Merci notamment à Alcin. 11h57. Merci mes GG.
Ah,
également.
C'était trop bien.
Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouvera samedi prochain à partir de 9h, évidemment. Les paris RMC dans quelques instants.
Tu sais que t'es à la sortie du studio, tu vas prendre le reste.
Mais moi j'ai encore une heure d'émission.
Je t'attends à 13h.
Ah ok, mince. Merci à Pierre Amiche à la production, Nicolas Debris à la réalisation et le 49.3 à la répétition. Salut.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.